Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est votre nouveau rendez-vous, le NRV, le magazine de la bonne double soirée. Dès 18h, vous pouvez nous podcaster avant le passage antenne de 22h à minuit. Première partie, ça ne change pas, l'actualité et la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Et l'actu ce soir, eh bien, c'est l'Iran. Le général iranien Soleimani, assassiné par les États-Unis, vient d'être enterré. L'Iran appelle à la riposte militaire et s'affranchit de l'accord nucléaire. Trump multiplie les intimidations. Le pays a vécu une crise sociale qui n'est pas finie, avec des manifestations qui ont été violemment réprimées en 2019. Entre pression diplomatique et posture martiale, mais où va l'Iran? À quel jeu joue l'Amérique? Quelle place tient la France dans le conflit? Autant de questions et d'autres que nous allons poser à nos invités. Christophe Bourseiller, des titres.
Des titres, écoutez, d'abord il y a des titres un peu sérieux, n'est-ce pas? Iran, USA, la guerre qui vient, point d'interrogation. Ensuite, un peu moins sérieux, peut-être c'est la photo Mola, point d'interrogation. Puis après, un peu moins, un peu plus,
oui, un peu rien,
plus surréaliste,
ouais,
un peu plus dada, un peu pataphysique. Iran, ça va barder. Oui, c'est bon. À votre Iran fixe, celui-là est plus difficile.
Je vous l'accorde. D'accord. Il faut moins travailler, peut-être. Hein.
Bon, non, mais je travaille pas beaucoup.
Marion,
je vous rassure.
Marion, elle est en train de penser en direct. Contre-programmation auvergnate ce soir, Marion Guilbeault.
Oui, on est parti à des milliers de kilomètres de Téhéran. Elle était dans le Grand Nord. Elle a allumé un feu dans la cheminée. Elle a composé un album de folk magnifique. Morgane Imbeau est en live à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole dans le NRV La Suite. France Inter plus d'Albert Camus est au programme toute cette semaine. Le NRV, eh bien, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et juste avant de vous lancer dans un éditorial échevelé, Christophe Bourseiller, je vous présente nos invités. Ardavan Amir Aslani, vous êtes avocat, spécialiste en géostratégie. Vous arrivez de Téhéran et je rappelle que vous êtes l'auteur de la Perse à l'Iran, 2500 ans d'histoire, et le Pakistan de la République des Moghols à l'Empire islamique. Tous les deux sont parus aux éditions L'Archipel. Bonsoir à vous.
Bonsoir monsieur.
À vos côtés, Agnès Levallois, vous êtes consultante, spécialiste du Moyen-Orient, et vous revenez d'Irak. Bonsoir.
Bonsoir.
Juste à vos côtés, Bernard Ourcade, géographe spécialiste de l'Iran. Vous avez signé Géopolitique de l'Iran aux éditions Armand Collin. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et Alan Caval, journaliste au service étranger du monde, spécialiste du Moyen-Orient.
Et dans l'ascenseur.
Il est dans l'ascenseur. Christophe Bourseiller, dégainé l'éditorial.
Eh bien écoutez, je ne sais pas Laurent si Trump est un fou malfaisant, comme on dit souvent en France, mais dans l'affaire iranienne, il se pourrait, mais oui, qu'il agisse de manière plus rationnelle qu'il n'y paraît. C'est en tout cas l'avis de Paul Gomard, directeur de l'Institut français des relations internationales. Sachez Laurent que pour cet expert, l'assassinat du général iranien Soleimani dans une frappe de drone à Bagdad s'explique par un désir de réplique. N'oubliez pas qu'en juin 2019, l'Iran a abattu un drone américain au-dessus du détroit d'Ormuz. Plus tard, en septembre, une attaque contre des installations pétrolières saoudiennes a été revendiquée par les Houthis proches de Téhéran. Enfin, c'est l'ambassade d'Irak à Bagdad, comme on le sait, qui a fait l'objet d'une attaque il y a quelques jours. Il est clair que l'Iran a fait monter la pression. Alors, il est mort, le général Soleimani, et la Perse promet de terribles représailles. Mais sera-ce le cas ? Laurent, allons-nous assister au retour du terrorisme chiite? L'Iran s'engage-t-il dans un conflit régional? Téhéran a déjà menacé de détruire Israël. Or, en 1991, lors de la guerre du Golfe, souvenez-vous, Saddam Hussein avait déjà tiré des scuds sur Israël et ça lui avait pas vraiment réussi. Assistons-nous en fin de compte à un bras de fer international, rappelant celui qui opposait il n'y a pas si longtemps Donald Trump au Nord-Coréen Kim Jong-un? Alors, Ardavant, Amir Aslani, vous arrivez tout droit de Téhéran. Comment la mort du général Soleimani a-t-elle été ressentie à Téhéran ?
Bien, cette mort a été ressentie de différentes manières. Parce qu'il y a deux facettes à ce général. Il y a le visage du héros national, celui qui, aux yeux des Iraniens, a combattu Daesh, l'État islamique, principalement en Irak, mais également en Syrie, qui a protégé les frontières de l'Iran, qui a fait en sorte à ce que le territoire national iranien ne soit pas menacé par cette irruption islamo-fasciste wahhabite. Il y a aussi l'autre image du général Soleimani, celui qui est inféodé au gardien de la Révolution, l'armée idéologique du pouvoir, qui se qualifiait lui-même comme étant un soldat servile aux ordres du guide de la Révolution. Bien, l'homme qui est célébré aujourd'hui par ces millions d'Iraniens dans la rue, c'est ce que les Iraniens perçoivent comme ayant été un héros national. l'homme qui a tenu tête face à Daesh. Donc globalement, si vous voulez, le climat à Téhéran est un climat particulièrement morose. Les Iraniens que j'ai pu côtoyer sont sincèrement désolés de la disparition de ce personnage. On l'a vu à travers les manifestations qui ont eu lieu partout en Iran.
On a entendu d'autres voix aussi sur la disparition du général Soleimani.
Bien entendu, si vous voulez, comme je l'ai expliqué, il y a deux Soleimani. Mais le Soleimani qui est célébré aujourd'hui, c'est ce héros national. Bien entendu, c'est l'un de ceux qui ont signé cette fameuse lettre de menace à l'encontre du président Khatami il y a quelques décennies, où ils l'ont carrément menacé d'un coup d'État. C'est quelqu'un qui est perçu en Iran comme étant également un agent de la répression sur place. Mais le pouvoir iranien aujourd'hui, même s'il est frappé, a saisi au bon cette disparition pour en faire une cause nationaliste iranienne, pour faire oublier justement cette répression abominable qui a secoué le pays il y a une cinquantaine de jours, où des centaines d'Iraniens ont été lâchement massacrés.
Lors du mouvement social de décembre.
Absolument. Donc aujourd'hui, ça devient comme du pain béni pour le pouvoir, qui peut aujourd'hui chevaucher sur le cheval de l'indépendance et du nationalisme persan.
Agnès Levallois, vous étiez en Irak. Comment ça a été perçu de ce côté-là ?
Alors moi j'étais en Irak avant l'assassinat de Soleimani, mais ce qui est clair c'est que dans le mouvement de contestation que connaît l'Irak maintenant depuis plusieurs semaines, cette figure était décriée par une grande partie des manifestants irakiens qui remettaient en cause justement le rôle de l'Iran et ce rôle qui était incarné par la personnalité du général Soleimani. Et on a vu d'ailleurs dès l'annonce de l'assassinat de ce chef militaire des cris de joie à Bagdad de la part de certains qui justement trouvaient que c'était une bonne chose que cet homme qui était là très présent en Irak dans le cadre des négociations pour trouver un nouveau Premier ministre, pour faire en sorte que l'Iran soit moins présent dans cette influence qui était exercée sur le pouvoir
l'armée
irakien.
L'armée iranienne était perçue comme une armée d'occupation, Alan Cavall ?
Par certains en Irak sans doute, notamment pas seulement pour des raisons militaires mais pour des raisons politiques et comme vient d'expliquer Madame Levallois, pour l'implication du général Soleimani non seulement dans des opérations antiterroriste, mais aussi dans des arbitrages politiques, dans des tractations visant à construire des majorités, des gouvernements, mais également dans des résolutions de conflits entre des acteurs parfois très locaux au niveau provincial. Donc cette ingérence-là, qui n'est pas que militaire, mais qui était aussi politique, était effectivement très critiquée par beaucoup de citoyens irakiens.
Mais qu'est-ce qu'il faisait précisément en Irak à ce moment-là ? Est-ce qu'il se sentait suffisamment en sécurité pour se balader comme ça dans une Jeep ?
Le général Soleimani était aussi en Irak, en Iran, en Syrie et était en contact avec tous les acteurs régionaux de la crise. C'est le premier ministre irakien qui signalait qu'il avait rendez-vous le lendemain matin avec général Soleimani pour lui donner un message venant d'Arabie Saoudite. Parce qu'effectivement, comme ça vient d'être dit, Soleimani était un acteur de terrain en Irak où avec les gros sabots, les Iraniens prenaient le pouvoir, c'est une chose. Mais il était aussi quelqu'un parce qu'il était...
Une sorte de diplomate ?
Oui, exactement. C'est un stratège. C'est quelqu'un qui était capable, en 2001, de dire « il faut s'associer aux Américains pour chasser les talibans ».
Oui, tout à fait. C'était lui qui était à l'origine de tentatives de réconciliation entre l'Iran et les États-Unis contre les talibans après le 11 septembre.
Au moins, techniquement, provisoirement, l'intérêt de l'Iran est de s'allier aux États-Unis pour faire tomber les talibans. Quand il s'est agi de protéger Erbil, les Kurdes, de l'arrivée de Daesh, c'est Soleimani qui était au charbon.
On raconte pourtant que l'Iran a protégé Oussama Ben Laden à un moment donné.
Ça, ce sont des actions techniques ici et là. Mais stratégiquement, il est clair que Soleimani était aussi un homme de la négociation parce qu'il était justement en avant de tout le monde, était capable, lui, parce qu'il contrôle une situation, de pouvoir négocier.
Ardavan Amir Aslani.
Absolument. C'est important ce qui vient d'être dit, parce que ça va à l'encontre de cette rhétorique américaine qui le présentait comme étant un terroriste encore plus grand que Ben Laden ou al-Baghdadi. On n'a pas trouvé Soleimani dans une grotte dans les montagnes de l'Afghanistan. C'est quelqu'un qui est arrivé dans le cadre d'un voyage officiel, invité par l'État irakien. Il avait un rendez-vous, comme ça vient d'être dit, avec le Premier ministre irakien le lendemain. C'est pour ça que cette affaire-là, si vous voulez, est une affaire quand même qui est particulière. C'est la première fois que les États-Unis, depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec l'assassinat du général Yamamoto, ont procédé à l'assassinat d'un dignitaire militaire d'un État souverain de cette ampleur. Avec également l'assassinat qui a eu lieu dans le territoire d'un autre État souverain au mépris de la souveraineté irakienne. américaine. Ce personnage-là a multiples facettes. C'est pour ça qu'il est très difficile de cerner le problème sous un angle unique.
Mais quand on lit Le Monde, là, je lisais un article du Monde il y a aujourd'hui, je lisais l'assassinat de Soleimani, est aussi important aux yeux des experts que ceux des chefs d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, et de l'État islamique, Al-Baghdadi, Alan Kaval. Ça contredit un peu ce que dit Ardavan.
Pas nécessairement, disons que c'est le narratif qu'impose ou qu'essaye d'imposer l'administration américaine, qui veut mettre sur le même plan un acteur comme Soleimani, qui est certes considéré comme un terroriste officiellement par Washington, mais qui malgré tout, et s'il est un terroriste, est un terroriste qui n'en est pas vraiment simple, puisqu'il appartient à une organisation qui est elle-même partie d'un État souverain, reconnu, qui a sa place aux Nations Unies. Donc on ne peut pas du tout comparer cette figure avec celle d'autres acteurs qui appartiennent à des groupes non étatiques, pour le coup, et aux bancs de la communauté internationale.
Qui est son remplaçant, d'ailleurs, Ismaël Ghani? Qu'est-ce qu'il représente?
Eh bien, c'est un personnage qui est moins connu, moins charismatique, qui n'a pas l'aura nécessairement auprès de ces acteurs régionaux que pouvait avoir, à grand renfort de propagande bien sûr, le général Soleimani. Mais c'est un militaire qui vient du même moule, qui est de la même génération, et qui était, me semble-t-il, son second, et qui dispose également de contacts dans toute la région. Tout n'est pas affaire de personne, c'est aussi affaire de réseau.
Ardavan Amir Aslani.
Si vous voulez, Soleimani est également la conséquence d'une volonté du pouvoir iranien d'en faire un héros national. Un peu dans la grande tradition de la mythologie persane. Son successeur, effectivement, c'est son bras droit. C'est un homme beaucoup plus modéré que ne l'a été Soleimani. C'est un professionnel, c'est un historique des brigades Al-Quds, qui, comme vous le savez, c'est une branche militaire iranienne exclusivement dédiée aux opérations extérieures en dehors du territoire national. Et sa désignation rapide traduit le fait qu'il était déjà sur les rangs pour être ainsi désigné par le guide.
Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On raconte, on dit qu'on va soit vers une guerre conventionnelle, soit vers un retour au terrorisme chiite. Bernard Ourcade, j'ai lu un texte de vous dans lequel vous dites « Plutôt qu'une réponse structurée de la République islamique, je crains pour ma part les réactions incontrôlées, intempestives de groupes miliciens au Liban, en Syrie ou en Irak, qui vont vouloir venger la mort de leurs héros ».
Effectivement, Soleimani était un général actif, donc il faisait la mort, il a provoqué à droite à gauche, c'est bien clair. Mais comme ça a été dit et répété tout de suite, il est également quelqu'un qui est capable d'avoir une vision stratégique pour à contrôler les choses. Et donc, dans la situation qu'il y avait à Beyrouth et en Bagdad, où l'Iran était malmené, on reprochait la société civile ordinaire, la nouvelle bourgeoisie moyenne, disait les Iraniens sont trop pesants dans le Moyen-Orient. Et les gens comme Soleimani, qui sont sur le terrain, comprenaient bien ce genre de choses. Ils savaient très bien qu'une nouvelle période s'ouvre aujourd'hui. Les sanctions américaines, il faut bien dire que tout ceci est parti du fait que les États-Unis avaient signé un accord pour que l'Iran devienne une grande puissance régionale, économique, etc. Cet accord était déchiré. Il restait pour l'Iran l'autre alternative, une puissance militaire et politique, qui n'est pas très amusante. La mort de Soleimani redistribue les cartes. Un nouveau logiciel est en place. En 2015, la signature de l'accord sur le nucléaire est un nouveau logiciel. On pensait différemment. Aujourd'hui, Soleimani est assassiné. Ça veut dire qu'il faut rebattre les cartes. On est au bord du gouffre. Et donc, comme en 2012-2013, la bombe atomique iranienne était prête d'exploser, entre guillemets, tout le monde s'est décidé à négocier. Aujourd'hui, n'est-on pas peut-être à la veille d'une crise extrêmement grave qui pourrait amener les gens à se mettre autour d'une table? Le pire est probable, mais le bon n'est pas aussi impossible.
Mais le pire, c'est quoi? C'est une guerre conventionnelle?
Je ne crois pas tellement à la question de la guerre conventionnelle, puisqu'on voit bien que l'Iran, l'armée iranienne en tous les cas, n'a pas les moyens de rentrer en confrontation avec les Américains. Le rapport de force est complètement défavorable à l'Iran. En revanche, ce dont dispose l'Iran, ce sont des moyens qui sont non conventionnels, et on sait que l'Iran dispose de missiles en nombre très important, que l'Iran a bénéficié de la technologie de partenaires, en particulier de Coréens, et que l'Iran a réussi, en tous les cas, à développer une industrie dans ce domaine extrêmement efficace, puisque vous avez rappelé tout à l'heure les installations pétrolières saoudiennes qui avaient été visées par des missiles, des drones en septembre, en causant vraiment des dégâts très importants, bien au-delà de ce que pouvaient craindre les pays de la région. Donc cette capacité de nuisance entre les mains de l'Iran est une évidence. Donc on peut très bien imaginer des cibles parfaitement identifiées permettant à l'Iran de dire on ne se laissera pas faire. Pour l'Iran, cette affaire est une déclaration de guerre. Je crois qu'il ne faut pas se tromper sur l'importance telle qu'elle est perçue par les Iraniens.
L'Iran d'ailleurs parle de riposte militaire. Alors à ce moment-là, moi je me pose la question, est-ce que les forces américaines vont-elles rester en Irak ? Je rappelle qu'il y a 5000 soldats à la frontière irako-syrienne qui sont des cibles potentielles.
Oui, vous avez parfaitement raison.
Il
y a un courrier qui a circulé hier sur Internet, délivré par le commandant militaire, annonçant le départ de troupes américaines. Chose qui a été le soir même niée par le secrétaire d'État américain Pompeo. C'est la question de la puissance militaire iranienne est toute relative. Bien entendu, l'Iran n'a pas d'aviation du fait des 40 ans de sanctions qui frappent ce pays. Mais l'Arabie Saoudite a une aviation. On a vu que ça n'a pas donné grand-chose dans la guerre qu'ils ont menée ces 4 dernières années au Yémen. La puissance militaire de l'Iran est d'abord technologique. Ça a été rappelé, en matière de drones à propulsion jet, les missiles balistiques, les missiles cruise, qui ont démontré leur efficacité le 14 septembre dernier, mais également en matière cyber, où l'Iran est aujourd'hui perçu comme étant l'une des 3 plus grandes puissances en la matière. Et d'ailleurs, les Américains aujourd'hui s'attendent à une attaque d'abord cyber. Mais principalement, la puissance de l'Iran, c'est dans sa capacité à ameuter toute une région. L'Iran, on le voit bien aujourd'hui, c'est l'Irak. L'Iran, on le voit aujourd'hui, c'est la Syrie, c'est le Hezbollah, Liban, c'est les Houthis au Yémen, c'est les Hazaras en Afghanistan. Donc c'est un ensemble de réactions en chaîne qui l'Iran peut déclencher, qui place les États-Unis devant un conflit quasi généralisé au Moyen-Orient, avec des ramifications de réfugiés sur l'Europe.
Oui, tout à fait. Il faut bien voir que en Iran, l'Iran a constitué depuis quelques années ce que j'appelle un archipel de minorités qui sont utilisables. Chaque fois qu'il y a des chrétiens, l'Iran les soutient. En Iran, ils ont des problèmes, mais à l'extérieur, ils sont soutenus. Chaque fois qu'une minorité chiite, l'Iran les soutient. Une minorité qui n'est pas arabe, l'Iran les soutient. Et ce réseau, cet archipel de minorités, qui sont autant de petits proxys, alors le Hezbollah est le plus célèbre évidemment, mais des petits groupes aussi, l'Iran a une multitude de capacités d'action. Et donc, on ne sait pas où ça peut tomber. Même si, effectivement, en Irak, comme vous le soulignez, ça fait très longtemps que les Américains savent très bien qu'ils ont environ 3000 hommes sur la frontière irako-syrienne, qui sont prisonnières des milices qui sont autour, qui sont aujourd'hui armés sérieusement et qui peuvent tuer 50, 100 ou 200 ou 300 boys américains, ce qui est impensable pour Trump. Et donc, cette menace iranienne, qui est, on ne sait pas où ça va tomber, est une réalité que tout le monde perçoit. Deuxième chose importante, ce sont, on y reviendra peut-être, l'ampleur des manifestations en Iran.
On va en parler dans la deuxième partie.
Mais montrant, c'est la deuxième force de l'Iran, disant, nous sommes un pays uni, exceptionnellement, même ceux qui sont opposés au gouvernement le soutiennent, dont notre volonté est inébranlable, et nous avons les moyens de faire mal. Donc, cette capacité iranienne d'un côté, et le potentiel du nationalisme de l'autre, font que, on a raison de craindre que l'Iran se passe à l'action.
Juste une question par rapport aux ripostes militaires aujourd'hui aussi prévues par les États-Unis. Quand Trump parle des 52 sensibles, il parle de quoi exactement ?
Alors celui-ci, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que le nombre de cibles correspond de l'aveu même de Trump au nombre d'otages américains qui avaient été retenus lors de la prise d'otage de l'ambassade à Téhéran en 79, qui est la matrice, ce moment là,
le trauma
au début de la révolution, c'est la matrice du fait que l'Iran soit un peu le grand Satan des États-Unis quelque part depuis 40 ans. Et on voit bien comment aujourd'hui il y a cette volonté de rejouer 79 quelque part, ou de rejouer en tout cas les thèmes, la symbolique, les narratifs, les récits.
Après l'attaque de l'ambassade qui a eu lieu
côté iranien.
Après l'attaque de l'ambassade dernièrement.
Absolument.
Qui rappelait justement 1979.
Absolument. Puisque c'est l'attaque ou en tout cas les manifestations, la masse de partisans pro-iraniens qui se sont massés donc autour de l'ambassade américaine à Bagdad.
Orchestrée par Soleimani, plus ou moins.
Orchestrée par Soleimani, qui est un des sites diplomatiques américains les plus sensibles et les plus protégés, qui a, semble-t-il, provoqué chez Trump cette volonté de frapper beaucoup plus fort, de monter, d'accélérer considérablement le rythme de l'escalade et d'organiser l'assassinat du général Soleimani.
Ben, je vous propose de repartir en Iran dans quelques instants, mais tout de suite de faire une pause entre sacré et électro. Les pères pleurent en écho. C'est le nouveau titre de Léonie Pernet.
Trop en rendez-vous.
À Téhéran et en Iran, tout dépend du prix de l'essence. Je crois vraiment que cette hausse va paralyser les classes populaires.
Tout, y compris les produits alimentaires, vont devenir plus chers. La situation économique des gens ne fera qu'empirer. Elle ne peut pas s'améliorer.
C'est une répression à huis clos qui se joue actuellement en Iran. La gestion de cette dernière crise, avec une coupure totale d'Internet pendant plusieurs jours, a montré que les autorités entendaient utiliser tous les moyens pour mater la contestation. Les tirs à balles réelles de la part des forces de sécurité ont également marqué les esprits.
Les Nations Unies ont dénoncé cette répression et s'inquiètent de plus d'un millier d'arrestations.
Nous ne connaissons pas l'étendue des victimes, morts et blessés, mais c'est clairement très grave.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
L'Iran en crise au programme du nouveau rendez-vous ce soir avec nos invités. Ardavan Amir Aslani, avocat spécialiste en géostratégie. Agnès Levallois, consultante spécialiste du Moyen-Orient. Alain Caval, journaliste au service étranger du monde, spécialiste du Moyen-Orient. Et Bernard Ourcade, géographe et spécialiste de l'Iran. Peut-être une question pour vous, Bernard Ourcade. Qu'est-ce que Trump voulait en assassinant le général Soleimani après justement cette crise de novembre, cette crise sociale qui, alors, on a l'impression qu'il joue contre son jeu, en fait.
Absolument. C'est un peu incompréhensible. Et on en parlait tout à l'heure, le fait de vouloir bombarder les 52 sites archéologiques et culturels iraniens. On sait que les talibans ont détruit les bouddhas de Bamiyan avant de passer au 11 septembre. Et donc Trump bombardant Persépolis avant... C'est absolument excellent pour mobiliser tous les Iraniens, quels qu'ils soient, les plus royalistes et les plus anti-régime islamique, contre les politiques américaines. Cette absurdité d'un côté, mais c'est aussi pour enflammer la situation, pour essayer de créer une espèce de brouiller les pistes au maximum. Mais en Iran, ils en ont vu d'autres, et les Iraniens sont un peu exaspérés par cette mauvaise connaissance de leur pays que peuvent avoir les États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui font la stratégie sur les États-Unis, sur sur le Moyen-Orient, les troupes qu'on peut mettre ici et là, mais connaître les populations, ce qu'elles sont vraiment. On n'est pas en 1979 aujourd'hui, les gens ont changé. On parlait tout à l'heure du général Ghani qui a succédé à Soleimani. Son fils a été arrêté en 2009, protestant contre la fraude électorale. Le fils d'un de ces généraux qui ont 60 ans, 70 ans aujourd'hui sont des gens différents. Et donc l'Iran d'aujourd'hui est à la fois nationaliste, ils sont bons musulmans chiites et ouverts à l'international aussi. Il faut tenir compte de tout cela. Et ce qui est catastrophique, c'est peut-être qu'aux États-Unis, il y a peu de gens qui connaissent l'Iran. Le dernier diplomate américain qui était en poste en Iran, c'était un des otages, John Lindbergh, qui a été le secrétaire d'État américain d'Obama pour l'Iran. Personne aux États-Unis ne connaît vraiment le pays.
Bernard Ourcade, quand on voit la répression contre le mouvement social de décembre, des centaines de morts, Internet coupé, on n'a pas l'impression non plus que l'Iran ait évolué vers une démocratie moderne.
Pour autant, il y a eu quand même ces manifestations. Ces manifestations sont le signe que quelque chose a changé.
La répression
aussi
témoigne pas d'une ouverture très grande.
Absolument.
Non,
la répression est là, mais la manifestation est là aussi.
Par d'avant, Amir Aslani.
Aujourd'hui, il faut vraiment intégrer la souffrance au quotidien que vivent les Iraniens. Les sanctions américaines ont anéanti l'infrastructure économique du pays. Si vous voulez, en une semaine, quand j'étais sur place, le dollar a gagné 10% par rapport à la monnaie iranienne. Vous avez un Iran, comme l'a rappelé le professeur Ourcade, 72% de la population qui a moins de 42 ans, qui est extrêmement éduqué, qui est connecté à Internet, qui sait exactement ce qui s'y passe. Et il y a effectivement incontestablement un décalage par rapport aux aspirations de cette jeunesse éduquée ouverte sur le monde et cette gérontocratie théocrate qui les dirige. Le problème de fond aujourd'hui, c'est que les Iraniens ne savent même pas quoi faire et comment faire pour aller vers une transition. Parce que n'importe quelle transition qui viendrait ne pourrait se réaliser tant qu'on ne tiendra pas compte de la sécurité physique des élites du pouvoir et de leur argent mal acquis. On n'est pas à l'époque de 79 quand le Shah d'Iran est parti retrouver son compte en banque en Suisse. Où on ces gens-là, pour se rendre. Pyongyang et Damas, c'est pas des options. Donc ils sont obligés aujourd'hui de trouver une solution de remplacement qui soit de nature à les garantir dans leur vie physique et dans leurs actifs.
Agnès Levallois.
Oui, ce qui est absolument frappant, c'est de voir le décalage. Et pour avoir été en Iran il y a quelques mois, ce qui était frappant, c'était les discussions qu'on pouvait avoir avec les Iraniens qui souffrent de façon absolument considérable de ces sanctions, et encore plus aujourd'hui qu'il y a quelques mois, puisque la situation ne cesse de se dégrader. Et donc un discours très dur à l'égard de ce régime. Et avec cette action menée par Trump aujourd'hui, évidemment, ça resserre les rangs des Iraniens autour de ce régime. Alors que ce régime a eu le pire comportement dans la répression dont on vient de parler.
Mais
de ce mouvement.
stratégie de Trump depuis 2018, donc il a renoncé au programme, aux accords sur le programme nucléaire, il a redoublé les sanctions. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il veut acculer l'Iran à une forme de saut en avant vers la guerre? Est-ce qu'il n'y a pas comme une stratégie visant à acculer ce pays? Qu'est-ce que vous en pensez, Alan Cavall?
Je pense qu'il ne faut pas négliger les questionnements de politique intérieure américaine. Je pense qu'être dur sur l'Iran... aux États-Unis, électoralement, ça peut payer.
Oui, c'est un prix électoral.
Et que finalement, voilà, qu'est-ce que Donald Trump et qu'est-ce que les partisans de Donald Trump savent réellement de l'Iran et de la vie quotidienne en Iran et des enjeux stratégiques qui sont liés à une politique dure vis-à-vis de l'Iran? Pas grand-chose. Au final, Donald Trump a tué un bad boy, un bad guy sur la scène moyen-orientale. Il peut vendre ça à son électorat. Je veux dire, le reste, la suite, les implications que ça peut avoir, je pense qu'il faut...
Vous pensez qu'il n'est pas conscient de cette dimension et qu'il joue le court terme médiatique?
Je pense qu'il ne faut pas surestimer les capacités de calcul stratégique, effectivement, l'administration américaine actuelle.
Oui, on a vraiment le sentiment, en tous les cas, que cette décision américaine, alors c'est vrai, intervient après la tentative de prise de l'ambassade américaine à Bagdad, et donc là, on l'a dit, hein, ça réveille des souvenirs pour les Américains qui sont terribles, mais n'oublions pas que cette décision a été prise aussi quelques jours après que Trump reconnaissent que la stratégie avec la Corée du Nord a été une stratégie vraiment perdante de son point de vue. Et donc, on voit bien que c'est un moyen aussi pour Trump de détourner l'attention de cela et pour d'essayer de regagner des galons qu'il va pouvoir vendre sur la scène politique intérieure américaine. On est en année électorale, nous n'oublions pas. Et donc, je pense que c'est un élément essentiel aussi de la compréhension.
Ardavant Amir Hassani.
Si vous voulez, pour comprendre la gravité de la situation, il faut se rendre compte qu'aucun des alliés américains, y compris Israël et l'Arabie Saoudite, se sont volontairement rangés du côté américain. Netanyahu a dit clairement au Conseil des ministres d'une affaire américaine qu'il ne regarde pas. Le prince Mohammed bin Salman d'Arabie Saoudite a dit qu'on n'a même pas été consulté. Les Européens de leur côté, absolument pareil. Personne ne s'est associé à cette décision américaine. Qui aujourd'hui, si vous voulez, est en train de transformer la position américaine au Moyen-Orient, un peu à l'instar de Western des années 50, l'armée américaine retranchée dans des camp entouré par des Indiens qui courent dans tous les sens. C'est ça l'Amérique aujourd'hui au Moyen-Orient.
Tout à fait. Et je crois que Trump a tué les États-Unis au Moyen-Orient. Il a achevé leur présence. En Afghanistan, des décennies de guerre pour rien, ils doivent partir. En Irak, ils sont partis. Il faut voir techniquement comment ils vont le faire, mais c'est terminé. Ils ont perdu leur crédibilité. En Arabie Saoudite, ils étaient à 30 kilomètres des raffineries qui ont été bombardées. Ils n'ont rien vu venir, ils n'ont pas voulu voir venir quoi que ce soit. Ils ne sont pas crédibles pour les Saoudiens. Je vois donc là un nouveau logiciel, comme je disais tout à l'heure, et le fait que les pays de la région, on le voit, restent calmes, hein, et c'est trouver des solutions. Sans les Iraniens, puissance qui voudrait prendre trop de place, ou sans les Américains aussi. Et donc on voit émerger finalement des puissances régionales, et finalement cet assassinat de Soleimani montre que les règles du jeu de ces années, fin des années 1900, après l'accord sur le nucléaire 2015-2020, ces années-là sont terminées. Et maintenant une nouvelle construction se met en place, mais les Américains ne font plus partie du jeu. Et ça c'est nouveau.
Et Israël, dans cette histoire, quelle est sa position aujourd'hui? Au vu de ce qui se passe,
Israël avait déjà eu l'ambition d'éliminer Qassem Soleimani en raison du rôle qu'il a joué dans toute la région, ce rôle d'influence de l'Iran dans la région qui a vraiment été l'œuvre de Qassem Soleimani, qu'on voyait aussi bien sur le terrain en Syrie, en Irak, au Liban, un peu partout. Donc il y a un soulagement parce qu'effectivement il représente vraiment ce contre quoi Israël se bat, à savoir la présence iranienne à ses frontières. Et là je pense plus particulièrement à la présence iranienne en Syrie, et on sait que régulièrement Israël lance des attaques en Syrie pour éviter que les Iraniens ne s'installent. Donc la disparition de Qassem Soleimani pour Israël, c'est plutôt un soulagement, avec une inquiétude en fonction de la réaction, puisque Israël étant au Moyen-Orient, effectivement, peut subir en réaction des attaques potentielles.
Ardavant Amir Hassani.
La question israélienne de taille, ne serait-ce que par l'influence, si vous voulez, du lobby pro-israélien à Washington. Rappelons que sous cette administration américaine, l'ambassade des États-Unis est transférée de Tel Aviv à Jérusalem. Le Golan a été reconnu comme relevant de la souveraineté israélienne. Et dans le prochain plan Jared Kushner, on parle de l'absorption de l'ensemble des territoires palestiniens au sein du Grand Israël. Mais le problème d'Israël, si vous voulez, en dehors de la présence du Hezbollah, 100 000 missiles au nord, de la présence iranienne en Syrie, le Gaza et ses 45 000 missiles. C'est pas tellement la proximité qui compte, puisque l'Iran a été capable, on l'a vu, de 700 km, frapper avec un mètre de précision les centrales saoudiennes. Le problème d'Israël, c'est que tant qu'il y a un pays dans la région, région, à 1000 kilomètres, disposant de l'infrastructure militaire nécessaire pour y lancer des attaques de missiles balistiques, et qui crie tous les jours en appelant à la disparition de cet État, ça entraîne systématiquement, si vous voulez, la fuite des élites. Donc la stabilité du pays est menacée. Donc le problème majeur de l'Iran dans ses rapports avec les autres pays de la région, c'est l'Iran et Israël est la main avec laquelle l'Iran traite ce pays.
Alors, il y a un pays qui pourrait éventuellement servir de contrepoids aux États-Unis, c'est la Russie, qui est plutôt considérée, Alan Cavall, comme un allié de l'Iran jusqu'à présent. Et pourtant, la Russie, aujourd'hui, semble faire profil bas.
Oui, l'affaire, je pense, pour tous les acteurs régionaux et internationaux, on voit bien, on a tout intérêt à ce qu'elle reste confinée à un face-à-face américano-iranien. Pourquoi prendre, absolument éviter dans un moment de tension pareil, aussi imprévisible, on ignore tout de ce que sera la riposte iranienne, on ignore tout de ce que seront les contre-mesures américaines, mais vous évitez de choisir son camp tout de suite. Et par ailleurs, si la Russie a pu avoir des convergences d'intérêts avec l'Iran, notamment dans le dossier syrien, on ne peut pas exactement parler d'alliés. Ce sont deux puissances qui, historiquement, tout de même, ont des divergences d'intérêts structurelles. Elles peuvent se retrouver sur certains dossiers, mais on ne peut pas imaginer que la Russie, demain, si l'Iran est attaqué, immédiatement prenne la défense de Téhéran.
Bernard Bourcade.
Oui, je voudrais revenir sur ce que disait Maître Migraslani tout à l'heure sur la nécessité de trouver une porte de sortie aux gens qui gouvernent l'Iran depuis 40 ans. Ces gens, ce n'est pas uniquement 500 personnes qui ont mis beaucoup d'argent dans les poches, c'est vrai cela, mais c'est aussi beaucoup de gens en très grand nombre. Les anciens combattants de la guerre Irak-Iran sont des millions. Le petit Basidji, le petit milicien qui a passé 6 mois au front, qui avait sa carte d'ancien combattant, a obtenu une place de facteur. Il y en a partout en Iran. Tout le monde doit quelque chose à la guerre Irak-Iran à cette époque-là. Et ces gens-là, qui ont 60 ans aujourd'hui, sont attachés à des valeurs de la révolution islamique, etc. d'un côté. Leurs enfants, qui ont 40 ans, ont pu obtenir des positions pas si mauvaises que ça. Ils sont allés à l'université. Ils sont pas forcément d'accord avec leurs parents. Mais ils ont aussi la reconnaissance du ventre. Ils savent très bien que s'ils ont été à l'université sans trop payer d'argent, c'est parce que papa avait été un ancien milicien ou un ancien gardien de révolution. Donc, on ne va pas couper la branche sur laquelle on est assis. Donc, ils sont à la fois prêts à manifester, et ils le font, en subissant la répression, mais ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Et donc, il faut actuellement trouver une solution pour qu'effectivement le changement de régime, comme on dit en Iran, ou que l'évolution intérieure du pays puisse se faire de façon calme, et c'est pas à coup d'assassinat ou de bombardement que ça peut se faire. Et ça, beaucoup de gens au sein du régime islamique sont parfaitement conscients de cette nécessité, d'où l'accord sur le nucléaire 2015, qui était pas souhaité par les plus radicaux en Iran. Ils ont dit, il n'y a pas le choix, on le fait. Et il faut maintenant reconstruire la confiance, et c'est un sacré travail.
On reste au Moyen-Orient, direction la Syrie avec le chanteur Oman Souleyman.
شهر العسل بروما ولا برلين نسوي شهر العسل بروما ولا برلين شتريدين قولي لي بس بايدك عشريلي تريدين وقولي لي بس بايدك عشريني انتي يا قمر ليلي حياتي ودرب تنورين انتي يا قمر ليلي حياتي ودرب تنورين We'll be right back.
المحبس والي ساور من اسطنبول الجيبين المحبس والي ساور من اسطنبول الجيبين خذي كل شيء لحلالك قد يعجبني دلالك لو من بالعين تخمزين قد يعجبني دلالك لو من بالعين تخمزين
Chytridine, traduction Quel est ton vœu, c'est signé Oumar Souleymane, Alan Caval, peut-être un mot sur ce que l'on vient d'entendre.
Ah oui, c'est de la musique de mariage, c'est
absolument,
ça.
Absolument, Oumar Souleymane est un animateur de mariage qui vient du nord-est de la Syrie, qui lui-même n'est pas kurde, mais qui vient de régions en majorité kurdes, comme Tel Tamar, où il y a eu récemment des batailles féroces entre l'armée turque et les forces kurdes. Et il a été repéré dans les débuts des années 2000 par un producteur américain qui a adoré ses petits accords de synthétiseur, et qui en a fait une star aujourd'hui, qui se produit un peu partout dans le monde.
Justement, Oumar Souleymane sera en concert à Lyon le 10 janvier à Nantes, le 11, programmation renouvellement des vœux 2020 pour Jean-Baptiste Audibert.
Le ton monte d'un cran entre Paris et Téhéran, avec au cœur de l'attention l'emprisonnement de deux universitaires du CERI, le centre de recherche international. Depuis le mois de juin, Fariba Adelkha et Roland Marshall sont détenus en Iran.
France Inter.
Le Quai d'Orsay a convoqué l'ambassadeur iranien pour dénoncer une détention intolérable et Téhéran accuse donc la France d'ingérence.
Le nouveau rendez-vous, Fariba Adelkha entame une grève de la faim, aussi suivie par une chercheuse australienne détenue, elle, depuis 15 mois.
Les deux femmes réclament leur libération immédiate, dénoncent les conditions de détention de tous les chercheurs universitaires qui, comme elles, sont injustement accusés d'espionnage par les gardiens de la Révolution.
Laurent Goumard.
Alors justement, l'accusation d'espionnage a été levée aujourd'hui même pour la chercheuse française Iran-France. On va en parler tout de suite avec nos invités. Ardavan Amir Aslani, Bernard Ourcade, Agnès Levallois et Alan Caval. Qu'est-ce que vous essayez ?
Oui, Bernard Ourcade, évidemment, comme beaucoup de gens, j'ai regardé la télévision ces dernières années et j'ai vu cette série formidable qui s'appelle Le Bureau des Légendes.
Oh, ben c'est la même
et
chose.
Dans Le Bureau des Légendes, il y a une scène dans laquelle Sarah Giraudeau joue une chercheuse française qui est donc une espionne qui va travailler en Iran. Or là, la crise que vit la France vis-à-vis de l'Iran, en ce moment, il y a une double crise. Il y a la crise américano-iranienne, puis une crise franco-iranienne liée à ces chercheurs. Ils sont trois, Fariba Adelkha, Laurent Marshall et une Australienne qui est aussi en prison avec elle, qui s'appelle Kylie Moore Gilbert. Comment expliquez-vous, comment comprenez-vous cette crise, cette affaire des chercheurs ?
Il faudrait allonger la liste. Il y a environ 425 000 personnes qui sont sur la liste. Tous les chercheurs qui ont travaillé en sciences sociales sur l'actualité des pays en Iran, en Égypte, où un chercheur a été massacré il y a un an, en Algérie, il y a beaucoup de pays du monde, les journalistes comme les chercheurs, les gens qui regardent un peu ce qui se passe, qui parlent la langue locale, je dis qu'est-ce que vous faites ici ? Il y a un nationalisme exacerbé depuis les indépendances, c'est pas nouveau. Alors quand le régime est à peu près coopératif, ça se passe plus ou moins bien, on passe une nuit au poste, j'ai moi-même passé plusieurs nuits au poste, c'est banal, le gendarme vous arrête, qu'est-ce que vous faites ici monsieur ? Ça s'arrange ensuite très bien. Quand le pays est en crise internationale et a des problèmes internationaux, on est un peu plus paranoïaque. Dans cette paranoïa en Iran est très forte. Il y a aucun chercheur français n'a fait de thèse en sciences sociales depuis une vingtaine d'années. Gendarme de terre, certains peuvent en faire ici ou là. On va travailler, on fait un voyage de 3 jours en Iran, interviewer 3 ayatollahs, prendre 3 bouquins, on revient, on fait une thèse. Mais des gens qui restent sur place, connaissent la langue, travaillent, connaissent la situation de l'intérieur et fasse un bon bouquin ensuite, soit de bons connaisseurs de l'Iran, mais c'est valable pour beaucoup d'autres pays de la région, ce n'est pas été possible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est moi, professeur retraité, qui parle, et non pas un prof de 50 ans, professeur à la Sorbonne ou ailleurs. Donc, le cas de Fariba Adelkha est un cas très banal, hélas. Il a été pris, elle, aujourd'hui, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, avant ou après. Pour nous, ce sont des prisonniers scientifiques, parce que de même que les militaires ont un statut, les diplomates ont un statut, les journalistes plus ou moins une protection, les médecins ont un statut, les avocats ont un statut, les chercheurs universitaires n'en ont pas. L'UNESCO protège les bâtiments. Ils ont réagi l'autre jour quand on touche aux bâtiments. On touche aux chercheurs, aux archéologues, aux historiens qui travaillent sur le bâtiment. Non, on ne réagit pas. Donc il y a un problème sur les chercheurs, sur la science, et le droit de pouvoir travailler.
Donc ça veut dire, Alan Cavall, ça veut dire que les chercheurs là, qui sont en prison en Iran sont en quelque sorte innocents des accusations que le régime
formule. Ils risquent la peine de mort. Hein,
Ceux qui sont accusés d'espionnage
risquent la peine de mort, oui, Alan Cavall.
Les chercheurs reconnus pour leurs travaux, Bernard Ourcade l'a expliqué, ils sont en prison pour des raisons qui sont liées à leur travail sur place, à leur travail de terrain. J'ai rien à ajouter de particulier là-dessus.
Oui. Et la question est justement là, il y a une instrumentalisation, si vous voulez. Et nous autres, en tant qu'universitaires, on est touchés aujourd'hui parce que Fariba Delra et Roland Marchat sont en prison, parce qu'avant, on mettait en prison les diplomates. Les diplomates américains ont été en otage, des journalistes, etc. Mais il y a une campagne qui est faite pour éviter cela. Aujourd'hui, on se rend compte que parmi les corporations, alors je défends ma corporation, très peu de choses sont faites pour cela. Or, la nécessité de connaître la culture des autres, la société des autres, l'économie des autres, est essentielle aujourd'hui dans le monde mondialisé. Il y a un décalage entre les systèmes politiques nationalistes repliant sur eux-mêmes qui défendent leur sécurité et la nécessité de connaître le voisin. Là, il y a une inadéquation dans laquelle l'UNESCO pourrait jouer un rôle.
Mais justement, il y a un problème avec la France, en fait. C'est que vous voyez, l'influence iranienne s'étend dans des pays du Moyen-Orient qui, pour certains d'entre eux, sont francophones. Je pense par exemple au Liban, un pays emblématiquement francophone. Et finalement, la France semble assez absente de la crise actuelle. Alors, il y a une tentative de médiation, Ardavan Amir Hassani, il y a une tentative de médiation de la France entre l'Iran et les États-Unis en décembre, et puis ça a fait pchit apparemment.
Si vous voulez, aujourd'hui, il y a un besoin de France, au Moyen-Orient en général, en Iran en particulier, avec la fin de règne de Mme Merkel en Allemagne, avec le départ de l'Angleterre. Aujourd'hui, il ne reste que la France. Donc la France a un rôle à jouer. Le problème, c'est que la France, dans son rôle de honnête courtier, n'assume pas totalement ses responsabilités. Il est vrai que l'Europe a essayé de déployer tous ses talents pour faire en sorte à ce que l'Iran reste au sein de l'accord nucléaire. On a oublié d'en parler, mais hier, l'Iran est quasiment sorti de l'accord nucléaire sans déclarer la fin de l'accord nucléaire.
C'est ça, il s'en est affranchi, mais il laisse la coquille vide, quoi.
Aucune des contraintes au niveau de l'enrichissement, au niveau du nombre de centrifugeuses, au niveau de l'activité, vont être dorénavant respectées par l'Iran. Cela signifie que l'accord est mort, même si l'Iran ne s'est pas officiellement retiré de l'accord. Mais par là, je veux dire que l'Europe a essayé, à travers les lois de blocage, à travers, si vous voulez, la création d'un OFAC européen, à travers INSTEX, tout un ensemble d'instruments de venir au secours de l'Iran. Sauf que l'Europe n'a pas été capable de le faire. Je vous donne un exemple. Iranair, qui est une compagnie civile, aujourd'hui, sur les Champs-Élysées, ne dispose pas de compte bancaire. Alors que juridiquement, il y a un droit au compte en France, eh bien, Iranair n'a pas de compte bancaire. Parce que la France, comme l'Europe, se couche malheureusement devant l'hyperpuissance américaine. On le voit aujourd'hui avec la question du vin, on le voit aujourd'hui avec la taxe sur les GAFA. L'Europe, en absence d'une unification réelle en matière politique, ne peut pas servir réellement de pouvoir de contrepoids par rapport aux Américains.
C'est vrai qu'il y a eu une grande déception de la part des Iraniens vis-à-vis de la France, lorsque la France a essayé de mettre en place un système pour compenser les sanctions américaines, donc un système, un mécanisme adopté par l'Europe, et le fait qu'on n'ait pas été en mesure de respecter cette promesse faite a provoqué une vraie déception de la part des Iraniens, aussi bien de la part du peuple iranien que des responsables qui n'ont eu de cesse que de dire aux Français: vous nous dites de rester dans l'accord, nous on veut bien rester dans l'accord, mais il faut qu'on ait quelque chose en compensation parce qu'on ne peut pas vivre avec les sanctions qui sont imposées par les Américains. Et donc il y a une déception à la hauteur de l'attente qui a été de la part des Iraniens de se dire la France et donc l'Europe vont réussir à mettre en place un système parallèle qui nous permettra de continuer à vivre. Or ça ne marche pas. Et donc face à ça, on voit bien qu'il y a vraiment un vide actuellement, et que les Iraniens nous disent à tout le monde, et nous le disent, nous, la seule chose qui importe aujourd'hui, c'est l'allègement de ces sanctions économiques. Je crois qu'il faut vraiment comprendre que l'élément essentiel aujourd'hui pour le pouvoir iranien, mais pour la population iranienne, c'est l'allègement de ces sanctions. Et donc, je reviens à ce que je dis à propos de la France et de l'Europe, la déception de ce mécanisme, le fameux mécanisme INSTEC, qui n'a pas pu être mis en place pour permettre de contourner une partie de ces sanctions.
Bernard Kahn, mais justement, vu qu'aujourd'hui l'Amérique joue seule dans ce conflit, elle joue solo, est-ce que l'Europe ne peut pas trouver un moyen de s'unir pour justement jouer de son côté comme une sorte de contre-pouvoir?
Bernard Kahn. Il y a eu effectivement hier des réunions au niveau européen pour essayer de faire quelque chose. Mais comme disait à l'instant Maître Miraslani, jusque maintenant les Européens n'ont pas fait grand-chose et ils sont structurellement en difficulté. Donc la France se retrouve un peu toute seule. Dans la politique du président Macron qui est due en même temps, c'est en même temps l'Iran et en même temps les États-Unis. Non, il faut un peu choisir quelquefois, au moins symboliquement. Et de passer la main dans le dos de Trump systématiquement n'est pas compris en Iran, tant pis qu'il n'y a pas de résultat. Cela dit, c'est le en même temps de l'autre côté positif. La France est le seul pays membre du Conseil de sécurité qui n'a pas d'intérêt en Iran, concrètement, en cours, contrairement à la Russie ou à la Chine. Et donc, le fait que le président Macron ait téléphoné un nombre incalculable de fois au président Rouhani, il a son numéro de téléphone portable, il s'est encore téléphoné hier ou avant-hier. Donc, la France est le seul pays qui garde politiquement une relation avec l'Iran. Et aujourd'hui, la situation est dramatique. Que l'Iran pourrait être traduit au Conseil de sécurité de l'ONU à cause du nucléaire, la France, qui a droit de veto, est un allié important. Et donc, aujourd'hui, peut-être, paradoxalement, la France a un rôle encore plus important à jouer que par le passé, même si elle n'a pas joué totalement ce qu'elle pouvait jouer comme rôle.
À propos de l'accord nucléaire, Alain Cavale, ça veut dire quoi de s'affranchir de l'accord nucléaire, précisément, quand l'Iran déclare ça ?
Eh bien, s'affranchir de l'accord nucléaire sans le quitter tout à fait de manière formelle, c'est devenir beaucoup plus imprévisible. Ça veut dire que du jour au lendemain, contrairement à ce qui se passait auparavant, où tous les deux mois, il y avait un désengagement régulier, relativement prévisible, eh bien, à présent, l'Iran peut sortir d'un coup sur la question, par exemple, de la quantité d'uranium enrichi, de la pureté de cet enrichissement. Toutes ces questions-là qui étaient relativement tenue et modérée, eh bien aujourd'hui l'Iran peut très très vite passer à un autre stade à tout moment.
Absolument. Et la grande tragédie aujourd'hui de l'Iran, c'est que les Iraniens pensent qu'ils ont la Chine et la Russie derrière eux. Les fausses manœuvres dans le golfe Persique dernièrement les ont confortés dans la chose. La réalité, c'est que la Chine, avec 700 milliards annuellement d'échanges avec les États-Unis, n'abandonnera jamais ce marché au profit de l'Iran. D'ailleurs, la Chine n'a pas respecté ses engagements pour reprendre la part de Total dans le gisement massif iranien qui s'appelle Sud-Pars. Les Russes, si vous voulez, on en parlait tout à l'heure de leur influence. C'est un territoire immense, mais l'économie russe est plus petite que l'Italie. Donc en fait, l'Iran, avec cette histoire-là, se retrouvera de plus en plus isolé, de plus en plus ostracisé, sans allié véritable, ce qui pourra pousser le pouvoir vers quelques démarches excessives qui ne seront à interpréter que comme des actes de provocation.
En même temps, je crois que l'Iran est un acteur quand même très très rationnel. C'est-à-dire que l'Iran, je crois, ne fera pas n'importe quoi dans ce contexte. L'Iran considère que ce qui se passe aujourd'hui est une déclaration de guerre. Moi, je me souviens que la dernière fois que j'y suis allée, à propos des sanctions américaines, ils me disaient « c'est une déclaration de guerre et on réagira avec les moyens dont on dispose, mais on réagira ». Donc, ce qui vient de se passer est une autre déclaration de guerre. Donc, évidemment, l'Iran va réagir. Et en même temps, je pense, va réagir en connaissant très bien les moyens dont ce pays dispose et les risques auxquels il s'expose s'il va trop loin en utilisant des moyens qui iraient bien au-delà de ce qu'il est capable de faire. Donc je crois que ça va être dans une fourchette assez subtile, mais c'est comme ça que ça risque de se passer.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci. Merci à vous quatre pour ça. Là, au moins, on en aura bien vu. On va passer à la musique. Contre-programmation auvergnate hein, pour vous, Marion Guilbault. C'est tout de suite, c'est le live. All right, let's have a
little rumble at the Ritz tonight. Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Marion.
Laurent, bonsoir tout le monde. Je vous invite à mettre le casque sur vos oreilles, à monter le volume du casque ou de votre poste de radio avec un live qui va nous emmener très très loin de l'Iran. Elle s'appelle Morgane Imbeau. C'est cette jeune femme qui publie aujourd'hui son premier album folk et affirmé. Mais on a déjà entendu sa voix caressante dans plusieurs projets. La première fois, c'était au sein du duo Cocoon. I'm just waiting for the day. The bedroom door. I am such a coward. I could win an award. You may not believe me. Depuis, Morgane Imbault a partagé les aventures de Jean-Louis Murat, de Julien Doré. Elle a écrit un conte musical atypique et initiatique, Les Songes de Léo. Mais il lui aura fallu du temps pour oser se mettre en avant, se faire violence pour se transformer en Amazone du folk. Amazone, c'est le titre de son premier disque. C'est un disque qu'elle a composé seule, en Norvège. Cette clermontoise avait besoin de changer de climat, de paysage, de lumière. Et on dirait bien que la puissance sourde des volcans auvergnats a trouvé son pendant dans la majesté des fjords scandinaves. Choc thermique, choc musical, choc d'écriture. Amazone est arrangée du côté des déclarations d'indépendance de Kerenan ou de Cat Power. C'est un premier album solo, mais pas en solitaire. On y trouve un duo avec Marina Hans, un autre avec le Québécois Chris Garneau, un titre signé Murat, un autre Mickey 3D et la production très soignée de Ash Burns. Je suis de celle qui se lève, je suis de celle qui règne. Bonsoir Morgane, avec une telle déclaration et un premier album intitulé Amazone, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une prise de conscience féministe en ces temps de MeToo et de, hélas, féminicide?
Oui, exactement. En fait, Amazone, pour moi, il y a plein de légendes sur les Amazones et je me suis dit, voilà, moi, une Amazone des temps modernes, c'est une femme libre et indépendante et c'est un peu ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai peut-être réussi à devenir. Donc voilà.
En partant vous isoler loin dans le Grand Nord.
Il a fallu partir loin quand même pour devenir libre.
Exactement.
C'est le prix à payer parfois.
On va l'écouter. Elle va jouer d'ailleurs Amazone. Hein, c'est le titre de l'album et c'est le titre de la chanson. C'est à vous Morgane Imbault. De l'album du même nom. Il sortira le 24 janvier. Elle était accompagnée par Antoine Pinet à la guitare. Morgane Imbault va être en concert à Nantes le 10 mars. Aux Étoiles à Paris, ce sera le 12. À Niort, le 19. À Biarritz, le 27 mars. La prise de son ce soir était assurée par une autre Amazone, Juliette Delperroux, et par Florent Layani. Merci beaucoup à vous.
Merci, merci à nos invités, merci Agnès Levallois, merci Hélène Caval, il est reparti hein, très vite parce qu'il avait un bouclage pour le journal Le Monde. Artavan Amir Aslani, merci. De la Perse à l'Iran, 2500 ans d'histoire, et le Pakistan de la République des Moghols à l'Empire islamique sont parus tous deux aux éditions L'Archipel. Bernard Ourcade, je rappelle, géopolitique de l'Iran, c'est aux éditions Armand Collin. Merci à vous quatre. C'était le NRV première partie, donc on va se retrouver dans 15 minutes, et oui, c'est pas fini pour France Inter Plus, mais demain, dans le NRV...
Ground control to Major Tom.
Oui, c'est vrai, on va changer de destination Mars avec David Bowie, 4 ans après sa disparition. Et en live, Marion ?
Ben, pas David Bowie, non, naturellement, ça... non, ce sera la grande Sophie.
Ah, mais oui, oui, la grande Sophie.
Là, et elle était là pour un truc un peu spécial, elle faisait un piano solo pour la première fois.
Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, programmation, préparation, Virginie Rouzic, Clémence Diligent et Christophe Bourseilly.
Rendez-vous.